Puis, comme question juive, le livre de Karl Marx écrit en 1843. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, ce qui a retenu mon attention dans ce livre polémique, c'est la façon magistrale dont Marx renverse la problématique de Bruno Bauer à propos de l'émancipation des juifs en Allemagne pour introduire une critique radicale et assez géniale des contradictions politiques de la société bourgeoise. L'annulation politique de la propriété privée, donc écrit-il, la propriété privée, la suppression du sens électoral, non seulement ne supprime pas la propriété privée, mais la présuppose, car l'État n'en laisse pas moins agir à sa façon la propriété privée. Quelle place a eu cette question de la séparation entre droits de l'homme et droits du citoyen, cette critique de l'égalité des droits abstraits des sujets de droit dans le courant marxiste par la suite? Est-ce qu'il y a eu une filiation à ce texte qui me semble important?
Votre lecture est la bonne. Votre lecture est la bonne parce que sur la question juive de Marx, il y a eu beaucoup de méprise. D'abord à cause du titre, la question juive, on a l'impression que c'est la formulation d'un problème sur lequel Marx va se prononcer, sur lequel il va dire quelque chose. Et par conséquent, avant même d'ouvrir le livre, on se dit, est-ce que Marx est pro-juif ou est-ce qu'il est antisémite ? Alors évidemment, diverses lectures ont été faites autour de ce thème, et qui ne sont pas les bonnes lectures. Ce ne sont pas les bonnes lectures tout simplement parce que Marx n'a pas traité de la question juive. Le titre français de cet ouvrage, La question juive, ne traduit pas du tout, ou traduit mal le titre allemand. Le titre allemand, c'est « Sur la question juive »,« Zur ». Zur, parce que la question juive, c'est le titre d'un ouvrage qui a été écrit par un ami de Marx qui s'appelle Bruno Bauer. Et Marx réfute les thèses de Bruno Bauer. Il ne traite pas, de la condition juive, même si forcément, à l'intérieur de son ouvrage, de sa démarche, il est amené à y faire allusion. Certains historiens ou prétendus tels ont montré que la question juive, c'était vraiment le lieu de l'antisémitisme de Marx et que, comme Marx était d'origine juive, eh bien, bon, vous voyez tout ce qu'on peut raconter là-dessus. À quoi d'autres ont répondu « Non, c'est pas tout à fait vrai », et on pouvait trancher la chose en disant « Voilà, lorsque Marx est antisémite, il n'est pas marxiste. Lorsqu'il est marxiste, il n'est pas antisémite. » Des choses de ce type, bon. Alors, qu'est-ce que c'était que cette question juive de Bruno Bauer et pourquoi est-ce que Marx s'intéressait à ça? Pourquoi il s'est senti obligé de répondre à Bruno Bauer? Eh bien, parce que Bruno Bauer, voulant prendre position dans la question juive contre l'antisémitisme, contre la caricature qui, selon lui, était donnée de l'histoire du judaïsme, dérive totalement, et Marx dit au moment où il faudrait souligner l'universalité, Bauer, lui, souligne la spécificité. Et il constitue un certain nombre d'abstractions. D'ailleurs, ce qu'il reproche à Bauer, pour le dire vite, c'est de faire de la théologie au moment où il faut faire une analyse politique à partir de la question juive sur le statut de la société dans laquelle se pose cette question juive et dans laquelle vivent les juifs. Alors, du même coup, Marx est amené à présenter sa conception de la société. Conception de la société, c'est-à-dire à montrer qu'il y a une division entre, d'une part, l'État et d'autre part, la société civile. Et que la compréhension de cette division débouche sur le problème fondamental à côté duquel passe Bruno Bauer, c'est-à-dire le problème de l'émancipation. Bien, alors la relation entre la société civile et l'État, c'est quelque chose que Marx emprunte directement à Hegel et à l'ouvrage de Hegel qui s'appelle « La philosophie du droit ». Dans la philosophie du droit, Hegel distingue un certain nombre d'étages, si l'on peut dire, dans la société. La société civile représente l'étage immédiatement antérieur à celui de l'État. La société civile, c'est la société du besoin, de l'intérêt égoïste, pratique, alors que l'État, c'est au contraire l'universel, c'est le contrôle de l'ensemble social par une couche d'individus qui sont les membres de l'État et qui par la suite, recevront le nom qu'ils méritent, c'est-à-dire celui de bureaucratie. Et alors Marx, pour faire la démonstration de son idée, fait une analyse, pratiquement une explication de texte de la Constitution française et de la théorie des droits, en faisant remarquer que dès le titre « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », on sous-entend que l'homme et le citoyen ne sont pas la même chose, sont différents. Or, la différence qu'il voit entre l'homme et le citoyen, c'est la différence qu'il a vue entre la société civile et l'État, à l'intérieur duquel, finalement, son ami Bruno Bauer ne sait pas trop où mettre le juif. Alors, que dit-il, Marx ? Ce qu'il dit est assez clair. Il dit que pour un individu, il y a deux types d'existence. Il y a l'existence comme membre de la société civile et l'existence comme membre de l'État. Dans la société civile, il mérite le nom d'homme. C'est pour ça qu'on va parler des droits de l'homme. Et dans la société de l'État, il mérite le nom de citoyen. Et en quoi est-ce qu'il y a une différence ? C'est que dans la société civile, celle de l'homme, par conséquent, règne essentiellement l'égoïsme, la lutte d'intérêts, le besoin pratique, alors que du côté de l'État, au contraire, on a affaire à l'universalité qui est celle que l'État désigne lui-même. Prenons le cas de l'homme. Les hommes sont différents les uns des autres. Parmi les hommes, il y a Malingère, mais il y a aussi le banquier du coin, il y a l'artisan potier. Ce sont des personnages, des individus tout à fait différents, qui ont des engagements sociaux différents et qui ont des métiers différents, et donc des formes d'intérêts différentes. À l'intérieur de cette société, effectivement, règnent les discriminations et les luttes. Par contre, quand l'individu est considéré comme citoyen, il bénéficie de l'universalité, de l'égalité. C'est-à-dire que tous les citoyens sont égaux, comme le garantit d'ailleurs la Constitution française. Seulement, la notion de citoyen revient à faire abstraction de la notion d'homme et des spécifications de la notion d'homme. Par conséquent, l'univers du citoyen est un univers totalement abstrait. Cette opposition est déjà à la fois un enregistrement des thèses de Hegel et une première critique de ces thèses. Précisément parce que la société civile, dans son rapport à l'État, c'est en quelque sorte l'opposition entre la réalité, la quotidienneté, et puis l'abstraction étatique. Comment peut-on combler la distance de l'homme au citoyen ? C'est ici que Marx va rencontrer la problématique de l'émancipation. Problématique de l'émancipation qu'il traite là dans un cadre général, mais qui était celle que traitait Bauer, mais qu'il traitait mal. Parce que Bauer, quand il écrit sa question juive, a dans l'idée de fournir une base théorique, une base argumentaire à l'émancipation du juif dans la société prussienne où le juif est privé de droit. Donc l'intention de Bauer est impeccable, mais Marx lui montre que posant le problème comme il le fait, eh bien il passe à côté de la véritable question qui est celle de l'émancipation humaine. C'est l'expression qu'utilise Marx. L'émancipation humaine. Alors en quoi va consister cette émancipation humaine ? Eh bien elle va consister à résoudre, sinon à faire disparaître, la distance entre la société civile et l'État. C'est-à-dire que la théorie que Marx a à ce moment-là de l'émancipation, c'est cette idée que la société civile doit se réapproprier ce qui a été hypostasié dans l'État. Je dis hypostasié parce que la démarche, elle est analogue à celle à laquelle procédait Feuerbach dans l'essence du christianisme. Dans l'essence du christianisme, Feuerbach montre que les idées de la religion ne sont pas autre chose que des hypostases, un peu comme si la religion jouait le rôle de l'État par rapport à, disons, la vie du fidèle. Il y aurait le fidèle et puis le religieux, ou plutôt la confiscation des idées. Mais là, c'est pareil. Il faut récupérer ce qui a été confisqué. De même qu'il faut faire redescendre, disait Marx, les idées de la religion sur la terre d'où elles sont issues. Critique du ciel, critique de la terre. Ici, critique du ciel, critique de la terre, ça veut dire critique de la société humaine, civile, et critique de l'État. C'est-à-dire que toutes les propriétés qui sont aliénées dans l'État, le grand thème de l'époque pour Marx, c'est celui de l'aliénation, évidemment, tout ce qui est aliéné dans l'État doit être récupéré par les hommes. Ce qui laisse entière, on le voit, une fois, si on suppose que cette récupération est faite, reste entière la question des rapports de ces hommes entre eux, et qui est celle de la lutte de classe, évidemment. Et cette distinction donc de l'État et de la société civile est naturellement extrêmement intéressante, parce que même si on ne la prend plus en considération à partir de sa finalité qui est celle de l'émancipation humaine, la distinction société civile-État reste, elle reste comme une interrogation qui concerne précisément les fondements de la démocratie. Concerne les fondements de la démocratie, c'est-à-dire ça nous renvoie directement à notre époque. Autant la question des juifs et la question de l'antisémitisme suppose le plaquage d'une problématique qui est la nôtre sur un texte qui, dans une large mesure, l'ignore, autant la problématique qu'aborde Marx, problématique politique, autant cette problématique peut être calquée sur notre époque, dans la mesure où nous aussi, nous avons à connaître de la distinction société civile-État. Je dis que c'est une distinction qui est riche d'enseignements pour comprendre la démocratie. On peut en dire, deux mots en prenant un exemple qui peut parler à l'imagination. C'est que depuis quelques années, la formation des gouvernements dans des pays comme les nôtres obéit à un certain dosage. C'est-à-dire, on constitue un gouvernement avec des hommes qui sont des spécialistes de l'État, spécialités politiques, et d'autre part, on introduit dans ces gouvernements des gens dont on nous dit qu'ils viennent de la société civile. Société civile, c'est-à-dire c'est le médecin, c'est le prof. C'est pas le politique, c'est le médecin, c'est le prof. En général, on ne va pas développer ça, mais il dure quelques semaines ou des fois quelques jours, il ne reste pas. Ce qui, entre parenthèses, nous donne un des grands clivages de la démocratie aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le clivage qu'on appelait autrefois réel et formel, c'est le fait qu'il y a une couche, qu'on pourrait dire hegelienne, qui se constitue dans l'État et que aujourd'hui on appelle la classe politique. Or, la classe politique, c'est naturellement une expression qui est privée de sens, parce que le mot de classe n'est pas le même, n'est pas de la même nature que le mot de classe dans la théorie politique. Mais ce qu'on appelle la classe politique, c'est bel et bien l'existence d'une classe qui est consacré au pouvoir et qui, quelles que soient les divisions qui l'opposent, montre une certaine communauté d'habitude, communauté d'existence, communauté de mœurs, communauté de fortune. Les sociologues ont déjà montré tout ça. Et en face, qu'est-ce qu'il y a ? En face, il y a ce que récemment encore les journalistes de la télévision ont appelé les vrais gens. Les vrais gens. Eh bien, les vrais gens, c'est les hommes de Marx. Mais il faut le rattacher aussi à un autre problème, c'est celui des droits de l'homme. Il est significatif qu'aujourd'hui, on ne parle que de droits de l'homme. On ne parle pas des droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire que le citoyen a refilé son virus à l'homme et que les droits de l'homme en question aujourd'hui, ben, ils sont tout aussi abstraits que l'étaient ceux du citoyen dans la critique que Marx fait de l'État. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui ne sont pas susceptibles d'être accusés de gauchisme ou de progressisme, parler de droit de l'homisme. On dénonce sous cette expression « droit de l'homisme » une idéologie qui, finalement, traite des droits, mais de manière abstraite, sans relation aux pratiques des individus dans la société. Et c'est la raison aussi pour laquelle l'idéologie qui a été, peut-être jusqu'à récemment, à mon avis, internationalement dominante des droits de l'homme, qui était l'idéologie de la classe dominante, c'est une idéologie qui tendait à faire croire que la tâche des grandes nations, en particulier celle du Conseil de sécurité, et d'une manière générale de l'Assemblée des nations à l'ONU, leur tâche c'était le respect des droits de l'homme et faire respecter les droits de l'homme. Et naturellement, on s'apercevait que dans la pratique, que le véritable droit de l'homme, c'est le droit du plus fort, et que donc on cachait la lutte entre les hommes, entre les sociétés, c'est-à-dire le côté société civile, comme disait Marx, derrière l'écran, véritable écran de fumée, des droits de l'homme. Ce qui fait que la notion de droit de l'homme aujourd'hui, on pourrait la comprendre en voyant d'une part l'homme et d'autre part le citoyen de Marx. L'homme, c'est celui qui n'a pas de droit. Quant aux citoyens, il en a, mais ils sont purement abstraits. Et par conséquent, ils ne rencontreront jamais ceux de l'homme. Voilà.